Vous allez bien? Yes. Alléluia. Merci beaucoup de nous accueillir une fois de plus. Merci à tous. Merci à Pierre pour ces annonces magnifiques. Merci aux parents qui ont récupéré les enfants. C'est génial. J'aimerais juste vous lire un passage avant d'introduire sur ce qui a été prié pendant la louange. J'aimerais vous lire Ésaïe 62, les cinq premiers versets. C'est l'Éternel qui parle. Le nom de ce chapitre, c'est l'instance pour la venue du salut, donc la venue de la délivrance, la venue de la guérison, la venue de la restauration. Le salut, c'est tout ça. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. C'est ce que l'Éternel se propose de faire depuis des générations à toutes les communautés qui se revendiquent de son nom, à la communauté d'Israël comme à la communauté de l'Église. Et c'est ce que Siméon dira lorsqu'il va prophétiser sur Jésus devant Marie et Joseph. Il va dire de Jésus, lumière des nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il y a en Jésus cette capacité d'être éclairé, mais aussi d'être glorifié, selon la mesure qu'on a de rapport avec lui. Dans la pensée de Dieu vis-à-vis de l'Ancien Testament et d'Israël, il y avait Israël qui était le peuple de Dieu et les nations qui étaient, voilà, les nations que Dieu a créées, mais ce n'était pas le peuple qui était en alliance avec Dieu. Ce qui différenciait Israël des nations, c'est qu'Israël avait fait un pacte avec Dieu, une alliance avec Dieu, s'était uni à Dieu, s'était approché de Dieu, avait reçu le message de Dieu, avait reçu la Torah de Dieu, avait reçu les prophètes de Dieu. Ils n'avaient pas simplement fait que jouir des bénéfices de la parole de Dieu, ils s'étaient unis à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils avaient plus de commandements que les autres, mais aussi plus de rétributions, plus de bénédictions et plus d'identification à Dieu que les autres. Lorsqu'on n'est que éclairé par Jésus-Christ, on est encore loin du compte. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde, nous ne sommes plus du monde. Nous devons être glorifiés avec lui, comme il est dit dans l'Épître aux Romains. Alléluia, et la parole de Dieu nous donne la capacité d'avoir une part de sa gloire lorsqu'on reçoit cette parole, lorsqu'on prend ses commandements sur nous. Alléluia, vous êtes avec moi ce matin? Alléluia, je suis tout cœur avec vous. C'est une joie pour Lydie moi-même d'être avec vous ce matin. Jean-Marie rigole, il dit, ça y est, il est lancé. C'est vraiment une joie, un privilège. C'est la troisième fois que j'ai l'occasion de partager la parole chez vous. Toute affaire sera jugée sur deux ou trois témoins, dit la Bible. Donc si en sortant d'ici, Jean-Marie me met un coup de pied, j'aurais compris le message. Mais en tout cas, c'est une joie. Je vous remercie à toute l'équipe pastorale pour votre confiance, votre amitié, votre affection, votre considération. C'est tous des mots qui sont vrais. Ce n'est pas juste parce que voilà, ça fait bien. Et merci à vous. C'est vraiment une joie, c'est un privilège que de pouvoir s'unir à vous. Merci à toute l'Assemblée aussi de nous recevoir. On se sent accueillis au milieu de vous. Sachez qu'on vous aime réellement. Ce n'est pas parce que c'est évangéliquement correct de le dire, mais c'est réel. On a un amour véritable pour vous. On se sent aussi reçu et apprécié de votre part, même aimé pour certains. Et plus que ça, le Seigneur nous aime tous. Et c'est pour ça qu'il nous réunit ensemble. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse recevoir le cadeau le plus précieux que Dieu ait fait. Il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. La bénédiction la plus grande que Dieu ait donnée à l'humanité, c'est sa parole. Et aujourd'hui, on vient pour recevoir la parole de Dieu. C'est plus une histoire. Là, quand je mange, je ne suis pas l'époux de Lydie, je suis Fabien, serviteur de Dieu. Je porte la parole de mon Dieu. Il n'y a plus d'histoire d'affection de la chair. Il y a une histoire de qu'est-ce qu'on est venu apporter. Pour vous aussi qui venez écouter, ne soyez plus dans l'affection de la chair. Est-ce que vous aimez la chemise ou non, la barbe ou pas, le son ou pas. Prenez la parole de Dieu qui est pour vous. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, comme dit l'apôtre Pierre, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le seul problème avec Dieu, c'est que Dieu il appelle de génération en génération, mais les gens ne répondent pas toujours à cet appel. Il n'y a rien de pire, comme je le dis souvent, d'être aux portes du temple de Dieu et de ne rien recevoir. Et ça dépend de nous tous, comment on se dispose à recevoir cette parole. Est-ce que vous êtes venus recevoir la parole de Dieu ce matin? Pas juste la parole d'un homme. Il y a dans cette parole qui va être citée la capacité de bouleverser votre vie. Il y a la capacité de bouleverser le monde. Ça fait 17 ans que je marche avec cette parole. Elle a bouleversé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, dans mes hauts comme dans mes bas, elle est venue me chercher. Le jour où j'ai honoré la parole de Dieu, je n'ai pas toujours été quelqu'un de droit, même en tant que chrétien. Je n'ai pas toujours vécu dans la sanctification, même en tant que chrétien. J'ai des fois prêché et fait des grosses bêtises derrière. Vous savez ce que j'ai vu ? Cette parole que j'avais honorée du mieux que je pouvais, c'est-à-dire mal, mais du mieux que je pouvais, venait me chercher dans mes bas. J'ai vu cette parole être vivante, venir me chercher dans des boîtes de nuit et dans des situations qui ne sont pas nommables à la chair, et venir me ramener dans son temple. Celui qui honore la parole de Dieu, il y a une alliance qui commence entre lui et cette parole. Si tu honores cette parole, elle t'honorera en retour. Quand tu es dans le haut, donne-lui tout ce que tu peux. Quand tu es dans le bas, attends-toi à elle, elle va te donner tout ce qu'elle peut, c'est-à-dire la vie et la résurrection, même la résurrection et la vie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin de recevoir la vie, d'autres qui ont besoin de recevoir la résurrection. Selon où vous en êtes, recevez cette parole. Ne faites pas que l'écouter, cherchez à l'appliquer. Alléluia. C'est ça qui différencie un chrétien mature d'un chrétien errant. Comme je dis souvent en prêchant, je suis déjà lancé, mais il y a un évangile qui divertit, il y a un évangile qui édifie. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas qu'une histoire dont on saute, on est content ou pas, ça c'est selon les profils psychologiques des gens. Mais qu'est-ce que ça dépose en toi ? Qu'est-ce que l'évangile dépose en toi ? Quand tu es à l'église, quand tu sors de l'église, quand tu as des problèmes, quand tu n'en as pas. On doit permettre à cet évangile de pénétrer notre intérieur et de faire naître en nous le Fils de Dieu. Comme l'Esprit est venu sur Marie, l'a couvé et s'est dit, c'est pour ça que l'enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Cet Esprit, là encore, sur chacun d'entre nous, il se propose de l'aide, du moins. Si nous-mêmes, nous pouvons dire à l'ange et au messager qu'il en soit fait selon ta parole. Alléluia. Amen. Il y a moins d'amen tout de suite. Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Amen. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour cette assemblée, pour cette famille, pour cette église. Merci pour ta parole que tu envoies de génération en génération. Quel privilège que de prêcher l'évangile. Je te remercie, quel privilège d'entendre l'évangile. Il te remercie aussi. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur, que ce ne soit pas un message de plus qu'on va enregistrer, mettre de côté, qu'on va peut-être réécouter dans un an, mais que ce soit quelque chose qui agisse aujourd'hui et maintenant. Que ton peuple s'éveille, Seigneur, à la réalité de ton royaume. Je te remercie parce que tu t'es choisi cette assemblée et tu nous as joints à elle, Seigneur. Je te remercie pour cette grâce et qu'aujourd'hui, un évangile qui édifie puisse être déversé parmi tout ce qui a déjà été prêché dans cette assemblée pour un temps comme celui-ci. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. J'aimerais vous partager un message ce matin. Je l'ai appelé « Laissons-nous édifier ». Et je remercie Paul qui a préparé tout, on peut l'applaudir. J'ai essayé de lui envoyer des choses simples hier, je dis mais t'embête pas, mais juste le nom des références, il a tout préparé, c'est tout propre et vraiment je le remercie pour ça. Je remercie chacun d'entre vous pour le service que vous apportez. C'est d'autant plus marquant quand on arrive en tant qu'étranger de voir comment vous avez tout organisé en fait pour que la parole de Dieu elle soit bonne chez vous. Et c'est vraiment pas partout le cas. Moi, je suis pas un faillot. L'église est belle, il faut frotter le dos de tout le monde. C'est pas du tout mon genre. Mais c'est vrai. Et vraiment, bravo à chacun, celles et ceux qui font la louange, mais celles et ceux qui servent aussi dans les différents services. Le temple, c'est tout ça. Le temple, c'est absolument tout ça. C'est le parking, c'est tout. Tout ce qui fait que le service de Dieu puisse être fait au maximum. Et vous pouvez applaudir pour vous-même ce matin. Le premier message que j'ai prêché dans votre assemblée en janvier ou février, c'était « Laissons-nous transformer ». Alors certains maintenant ont dit que j'avais dit que l'église était une boulangerie. Voilà, je ne sais pas si c'est exactement ce que j'ai dit, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de se laisser transformer. Quand on est transformé, eh ben, on vient à l'église, c'est déjà bien. Mais quand on est édifié, on peut faire l'église. Ce n'est pas la même chose. Et j'aimerais qu'on aille plus loin dans la suite de ces messages. Moi, je suis l'homme des séries. J'aime bien, selon les églises où on va, je suis le dernier message, je continue. Je dis à Lydie, je fais ma balade évangélique. Voilà, j'ai une trame et je la suis. Et j'aimerais vous partager autour de ça. Laissons-nous édifier parce que je crois que c'est un temps d'édification qui est devant chacun d'entre nous. Et vu que je m'adresse à vous, devant chacun d'entre vous. C'est un temps qui est pour chacun individuellement. Dieu, il façonne un homme. Vous avez vu dans le commencement de l'histoire, quand Dieu crée Adam et Ève, il crée d'abord Adam à part et il crée Ève à part. Chacun doit être édifié personnellement. Et c'est comme ça qu'il y a un couple qui peut créer l'humanité derrière. Des fois, on s'unit à l'église, et c'est juste, et j'en reviendrai après. Mais à des moments, on se dit, bon, ben voilà, dans ce grand nous, je peux me perdre. C'est vrai, Mais dans ce grand nous, il y a plus que se perdre, tu peux te trouver aussi. Dans ce grand nous qui est l'Église, tu peux trouver ce grand jeu. Tu peux trouver la personnalité que tu dois être. Et après, une fois que tu l'as trouvée, il t'appartient de développer cette personnalité. Alors j'aimerais vous partager, message conventionnel, je regarde Jean-Marie pour être validé, message en trois points, comme on vous a appris au tout début de notre conversion. Je vais vous faire un message en trois points. Trois points qui doivent être suivis dans l'ordre. Des fois, je rigole, j'ai écrit des livres. Alors tu peux lire chaque chapitre séparément, mais il y a des personnes, je me dis, mais est-ce un problème de dyslexie? Je ne sais pas, mais elles lisent partout, en diagonale, en tout. Mais tu sais, si on a fait chapitre 1 et chapitre 2, il y a une raison aussi. Ben, c'est pareil dans les messages, c'est pareil dans la Bible. Il y a une suite logique en Dieu, comme il y a une suite logique dans notre vie. Alors j'aimerais poser trois points dans votre vie et dans votre assemblée, humblement, mais dans la réalité du Seigneur qui n'est pas faible au milieu de vous, et vous mettre au défi de suivre ces trois points durant cet été, et vous verrez comment vous arriverez à la rentrée. Alléluia ! Est-ce que vous êtes enjoué de ça ? Parce que de toute façon, si ce n'est pas le cas, je vais quand même continuer. Le premier point que j'aimerais vous partager, c'est dans « Laissons-nous édifier », ou peut-être même « Édifiez-vous », si j'aurais pu dire, « Bâtissez-vous une stature ». Bâtissez-vous une stature. Et pour ça, on va lire deux passages qui se trouvent dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 1, verset 80. Et vraiment, Paul, c'est extraordinaire. Bravo. Ben, mais moi, j'en vois à l'avance. Ah, bouh. Bâtissez-vous une stature. Luc chapitre 1 et verset 80. Il est question de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Or, l'enfant grandissait et se fortifiant en esprit, il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Là, il est question de Jean-Baptiste, celui qui va préparer la venue du Seigneur. C'est un être humain comme nous, qui n'a même pas la grâce d'être dans la nouvelle alliance comme nous. Okay, on ne peut pas dire « Ah, ça c'est Jésus, c'est pas moi ». Maintenant, on va parler de Jésus-Christ. Luc chapitre 2, verset 40 et ensuite verset 52. Verset 40, il dit « L'enfant grandissait et se fortifiait ». Ça ressemble. « Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui ». Verset 52, « Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Si tu peux laisser juste ces versets, merci beaucoup, comme ça. « Bâtissez-vous une stature ». C'est la première chose que vous devez faire. Il vous appartient à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, de nous bâtir une stature. Qu'est-ce que j'entends par stature ? J'entends un caractère. On doit se bâtir un caractère, faire l'œuvre de Dieu, vivre l'œuvre de Dieu, bénéficier de la présence de Dieu. Ça demande plus qu'un parler en langue. Ça demande plus que de la bonne louange. Ça demande plus que tout ce qu'on peut faire dans notre société évangélique moderne. Ça demande un caractère. Ça demande une stature, des traits de caractère qui doivent être développés là-dedans, là-dedans et parfois même ailleurs. Une certaine droiture de vie, une éthique de vie. Et c'est comme ça qu'a commencé Jésus-Christ. Avant même qu'on l'appelle Jésus devant tout le monde, on dit l'enfant. L'enfant, il grandit. Et quand il a atteint certains versets, c'est-à-dire 12 versets de plus, on va dire Jésus. On va commencer à parler de son identité. Il y a une croissance dans la stature. C'est la première chose que Dieu fait. Il n'y a rien de pire, rien de pire, et c'est arrivé à plein de serviteurs de Dieu, que de recevoir les dons du Saint-Esprit, l'onction, quand on n'a pas la stature. Parce qu'on peut ploire, on peut plier, on peut être cassé sous ce poids-là. Il y a des personnes qui insistent tellement pour recevoir des choses de Dieu, à un moment donné, elles ont rompu la tête du Seigneur, il va envoyer. Le problème, tu ne peux pas supporter ces choses. La Bible dira, et c'est Jean-Baptiste lui-même qui rendra ce témoignage au Seigneur Jésus-Christ, il dira, on lui dira, comment tu sais qu'il est le Fils de Dieu ? C'est un prophète, Jean-Baptiste. Il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il regarde, il a vu le Saint-Esprit sur des gens, il a vu des gens être saisis par l'onction, il a vu plein de choses, mais il a dit, le Fils de Dieu, il est différent des serviteurs qu'on a l'habitude. C'est celui sur qui l'Esprit descend et demeure. L'Esprit peut descendre sur chacun d'entre nous, j'ai aucun doute, Dieu il est Dieu, il descend, il remonte, il fait ce qu'il veut. Mais demeurer, c'est autre chose. Il y a un poids dans la présence de Dieu, un poids de gloire comme on l'a cité tout à l'heure, un poids d'amour, même l'amour de Dieu peut être pesant. Ça vous est jamais arrivé de sentir combien Dieu t'aime au milieu de ta crasse et ça te fait peur? Et pourtant il n'y a que bonté, mais cette bonté elle t'effraie. La Bible dira « Considère la bonté et la sévérité de Dieu car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Dans sa bonté, il y a quelque chose de terrifiant. Dans sa sévérité, il y a quelque chose de doux. Paradoxe du divin. C'est ce qu'est Dieu. Ce Dieu-là, il ne veut pas juste passer et nous donner du rafraîchissement. Il le fait au début, de bon cœur. Mais il cherche plus que ça au milieu de nous. Sur qui est-ce que je peux demeurer? Parce que c'est ceux-là qui sont fils. C'est ceux-là, c'est celles-ci qui sont filles. Et ça, il fallait des personnes. T'as vu, Jésus, il naît du Saint-Esprit. On est d'accord, hein? Il naît d'une femme vierge. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, non, en tout cas. Voilà. Il naît sans intervention d'un homme. C'est très, très particulier, hein? C'est déjà bien. Il est saint dès sa naissance. Wow, super, magnifique. Mais l'Esprit ne descend pas demeurer sur lui comme ça à ce moment-là. Ensuite, Jésus va monter au temple, vous connaissez. Il arrive, il questionne. Il n'est pas réputé pour ses grandes réponses. Dans la croissance spirituelle, on ne voit pas ta maturité par tes réponses, on voit ta maturité par tes questions. Il y a des personnes, elles ont 12 ans spirituellement, elles n'ont que des réponses à donner à des gens qui en ont 60. Immatures. Tes questions révèlent ta maturité. Je dis souvent ça à Lydie. Maintenant, bon, je suis un peu taquin, je m'amuse. Il y a des gens, je ne leur réponds plus parce qu'ils ne savent pas questionner. On doit apprendre à questionner. Demandez et vous recevrez. Il n'est pas dit affirmer et je vous répondrai. Demandez. Et Jésus va grandir. Le Jésus qui est la parole faite chair va demander à des rabbins issus des pharisiens poser des questions sur la loi. Ils vont dire, mais cet enfant, il est extraordinaire. Il va venir, il va questionner. Et ce n'est pas simplement pour faire bien et se soumettre. Non, il apprend, il développe. Il ne peut pas développer sa connaissance à ce moment-là parce qu'il est la parole de Dieu. Mais il développe son caractère, la soumission. Il me semble que je l'ai mis ce texte qu'on regardera après. Il va redescendre, il va être soumis à ses parents à 12 ans. Il développe le caractère. Ce n'est pas juste ça, il est frustré, il prend sur lui. Justement, face à la frustration, il apprend à plus l'être. Comment? En comprenant le plan de Dieu. Il grandit en stature. Bâtissez-vous une stature. Il y a quelques jours, on est en train de marcher au monde de Narnia, qui s'appelle Auxel Haut, et on était en train de marcher. Voilà, j'étais avec Lydie, je disais, bon, si à ce moment-là, je croise un lutin, c'est possible. Tout peut arriver, une licorne, une chose. C'est Auxel Haut, quoi. Et j'habite chez des gens qui ont des vaches comme animaux de compagnie, vous comprenez? C'est difficile à comprendre pour moi. Non, je rigole. Plus sérieusement, on est en train de marcher, et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, dis-leur, bâtissez-vous une stature, bâtissez-vous un caractère. C'est la parole de Dieu pour vous, parce que par moment, et ce n'est pas du tout un reproche, c'est un encouragement, une piste d'évolution. Si à chaque fois qu'on te montre une piste d'évolution, tu le prends mal, il faut vraiment, vraiment que tu te convertisses. C'est ultra important, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne joue pas, et il n'y a rien de pire pour toi que de voir Dieu en face, parce que Dieu, lui, ne s'excuse pas de te reprendre. Ok ? Dieu m'a dit, dis-leur, bâtissez-vous un caractère, bâtissez-vous une stature. Il vous manque parfois cette stature, cette maturité de dire « je marche devant Dieu ». Ce n'est plus une histoire de mon pasteur ou mon prophète ou je ne sais quoi, ou mon YouTube. Une histoire de mon Dieu avec moi. Je marche avec ce Dieu jusqu'à devenir semblable à lui. Bâtissez-vous, grandissez. Durant cet été, cherchez à grandir là-dedans. Grandir en esprit. Grandir en sagesse. Grandir dans la grâce. Grandir en taille, c'est-à-dire prendre l'ampleur spirituellement. Moi, je l'ai pris littéralement et regardez, ça ne m'a pas toujours réussi. Donc, j'essaye de revenir en arrière. Essayez de grandir en Dieu, d'élargir vos compétences, votre compréhension. Et je bénis Dieu cet été, je crois, il n'y a pas assez BM Campus, tout ça, c'est fini là. C'est ça, Pierre? Ouais. Gloire à Jésus, parce que là, ce n'est plus une histoire de formation, c'est une histoire de consécration, une histoire de marche avec Dieu. Ce n'est plus une histoire du pasteur ou des conférences. Gloire à Jésus pour tout ça. T'es seul devant ton Dieu maintenant. C'est comme ça qu'on bâtit des hommes forts et des femmes fortes. Parce qu'il y a un jour, les amis, où Dieu va arriver, il va séparer les gens par catégorie. Et si tu as marché avec quelqu'un de droit, mais que tu ne l'es pas devenu, bah tu seras tout seul ce moment-là. Et ça sera beaucoup plus dur que de se préparer, de se sanctifier, d'évoluer en esprit et autres. Nous sommes dans des temps qui sont plus cruciaux que ce qu'on a annoncé. Mais question que je voudrais poser, même au niveau de ce qu'on a annoncé, est-ce qu'on y croit vraiment? J'ai ma réponse, non. Parce que si on y croyait vraiment, on se préparerait autrement. On n'attendrait pas que d'être réunis, et comme dit Johanna, de chanter Kumbaya, mais on se préparerait, on chercherait la face de ce Seigneur. Tout le peuple doit être un peuple de sacrificateurs pour son Dieu. Cette porte, elle est ouverte pour vous tous. Vous devez marcher dans cette porte parce que Dieu vous attend dans ce chemin-là. il vous y attend. Et comme j'ai dit hier à un jeune homme qui est venu nous visiter, sur le chemin, tu seras aidé. Pas en dehors. Sur le chemin, tu seras aidé. Dieu nous aide lorsqu'on marche sur son chemin. Et c'est un chemin de croissance. Ce n'est pas un chemin de perfection, bien qu'il nous conduise à la perfection. Ce que Paul dira, je n'ai pas saisi la perfection, mais je cours dans ce chemin pour la saisir. Au fin fond de ce chemin, il y a la perfection. Mais moi, je cours dessus. Donc, ce n'est pas une histoire de faire des erreurs ou pas, on en fait tous. Même dans ce message, j'y mets tout mon cœur. À la fin, il faut peut-être que tu enlèves 30%. Il y a peut-être 30% qui sont juste l'expression de mon caractère. C'est tout, c'est comme ça, on vit sur terre, les copains. Mais à partir de ce qui est juste, il faut qu'on marche et qu'on court. Il y a une croissance qui doit être faite. Il y a un temps, tu étais au lait, maintenant tu dois être à la viande. Il n'y a pas de vegan spirituel. Ah oui, Jésus, ce n'est pas la courgette du Saint-Esprit. Il faut mâcher, il faut prendre, il faut ruminer, il faut grandir. Je mets de l'humour, je n'ai rien contre les véganes, inquiétez-vous pas. Mes belles-sœurs sont véganes, je les taquine un peu. Mais on doit se nourrir d'une nourriture qui demande à être digérée, qui nous prend aux tripes. C'est ça la vie chrétienne. Hier, encore une fois, je disais à ce jeune homme, et il ne t'a pas menti, le chemin il est difficile, mais il mène à la vie. Quand le chemin il est difficile, quand c'est resserré d'entendre ce que je vous dis, rappelez-vous qu'à la fin, il y a la vie. Parce que lorsqu'on est trop à l'aise, et oh, mais c'est bien, ça me fait du bien, rappelle-toi qu'à la fin, il y a la mort. Et tu verras, le bien sera plus vite vu comme mal. Ah ouais, non, c'est relax. Si je, et me relâcher là, c'est mourir. Je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Donc, plein de fois dans notre marche avec Dieu, on avait des bons conseillers remplis de je ne sais quel esprit. Il faut prendre du temps là, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'ai dit, ne les écoute surtout pas. Ils ne suivent même pas Dieu. Ne les écoute pas. Se relâcher ici, c'est mourir. On se relâchera quand on sera arrivé à une étape qui mérite de se relâcher. Et Dieu l'a fait. Vous ne devez pas vous relâcher, les amis. Vous devez avancer. Pas avancer en programme, pas avancer en investissement communautaire, avancer dans un investissement personnel avec Dieu. Croître avec le Seigneur. Bâtissez-vous un caractère, bâtissez-vous une stature. Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu rejette le méchant. Tous ces versets-là, ils parlent de quoi ? C'est des traits de caractère. Au nom du Dieu m'a dit, et j'en sais quelque chose, je prêche, le nombre de fois où au nom du Dieu m'a dit, tu tombes dans un orgueil maquillé, mais c'est vrai, moi je le confesse, mais plein de fois. Alors c'était des fois les gens ils n'osent pas te le dire, ce qui est superbe c'est que tu rentres dans ta chambre, ben, il y a Dieu et lui il n'a pas peur de toi, et il te reprend, là, et tu vas te détendre maintenant. Ah oui, d'accord, d'accord, ça te fait bizarre. Et merci, c'est ça un père qui aime son fils. Dire c'est bon, t'es détendu, allez, viens maintenant, retourne marcher, Fabien. Il faut que vous alliez rencontrer ce Dieu-là. Il ne faut pas maquiller vos nudités caractérielles, vos mauvais traits, vos je sais trop quoi, je sais trop si, derrière même des prophéties ou des paroles reçues que vous avez enregistrées sur vos portables. Ces paroles, elles ne sont pas là pour vous maquiller, elles sont là pour vous transformer. Elles doivent vous transformer. Une prophétie derrière laquelle tu fais que te cacher, laisse-moi te dire une chose, j'en sais quelque chose, plus que beaucoup de gens, elle viendra te dévorer à la fin. Elle viendra te combattre à la fin. Elle a un degré de patience. Même les paroles de Dieu, parce que Dieu aussi a un degré de patience. Pendant un temps, c'est bonté. Moque-toi de la bonté. Tu verras l'autre face de la pièce. Il y avait une raison pour laquelle il ne voulait pas qu'on la voie. On ne doit pas se cacher derrière. On doit se laisser transformer avec. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais vous partager, bâtissez-vous une vision. Une fois que vous avez bâti votre caractère et votre stature. Pas avant. Parce qu'il y a plein de gens remplis de visions qui sont égarés par leur orgueil, comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens. Il dit que c'est des gens qui divaguent dans leur vision, qui sont enflés d'un vain orgueil. Alors moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit « Ok, je ne veux plus avoir de songe. » Tu vois, c'était très binaire. Il m'a dit « Mais non, ce n'est pas ça. » Je dis « Non, mais moi, je ne veux pas être ce genre de personne. Seigneur, aide-moi, change-moi, transforme-moi. » D'abord, le caractère, j'insiste. Parce que les gens font beaucoup tout à l'envers. Et à la fin, ça crée beaucoup de désastres. Et des fois, derrière ce désastre, il y a des communautés entières, des églises entières. Et ça fait beaucoup de mal. Plus tu es vieux, plus tu es haut, plus tu as un pouvoir sur d'autres. Et c'est comme si moi, tout de suite, je me mettais à devenir fou. Je faisais la roue en slip. Bah, c'est un scandale plus grand que si toi, tu fais un truc bizarre chez toi. Parce que je suis sur la chair tout de suite. Et que vous me regardez comme un serviteur de Dieu. J'ai un devoir à votre égard. Pas qu'à l'égard de Dieu et de la parole. J'ai un devoir à votre égard aussi. Plus tu montes, plus tu as une position, plus Dieu va te reprendre. Moïse, il était plus humble que tous les hommes. Pourtant, Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas rendu gloire sur humainement. Je ne sais pas si on peut dire un détail, mais il en avait marre. Toute personne, et les mecs, on se comprend, tous les mecs qui lisent ça, on dit, mais je comprends qu'il en avait marre. Moi, pour moi que ça, j'en ai marre. Et Dieu, il te répond, oui, mais à son niveau, il ne devait plus en avoir marre là. Il devait prendre sur lui. Mais attends, Seigneur, c'est le peuple qui pêche. Oui, mais le peuple, c'est le peuple. Toi, tu es le dirigeant. Et sur ça, ça doit susciter un équilibre entre les uns et les autres, entre les différentes parties. Et maintenant, bâtissez-vous une vision. J'aimerais lire plusieurs passages qui sont les visions de la moisson dans les quatre évangiles. Donc, Paul, tu peux y aller. Jean chapitre 4. Non, merci, Matthieu 9, d'accord. Pas de problème. Il a fait dans l'ordre. Tu as fait l'école biblique, toi. Merci. Non, c'est tous les versets exactement. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Waouh. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, les foules, elles sont plusieurs foules, il fut rempli de compassion pour elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jusqu'ici, c'est magnifique. Jésus, il est là, il fait tout. Il est au four et au moulin. Et pourtant, il n'est pas tout seul. Il a des gens autour de lui. Il a des disciples qu'il a appelés apôtres. Il a une foule de disciples qui sont plus grands encore. Et après, il y a la foule qui vient l'écouter. Mais c'est Jésus qui fait tout. Tout le monde n'est que consommateur de ce que fait Jésus. Et Jésus, il leur montre comment il fonctionne. Il dit, mais regardez-les. Et il va leur dire, alors il dit à ses disciples, pas tout le monde, à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce qu'est en train de faire Jésus à ce moment-là? Jésus, il est comme tout le monde. Il y a des moments, il a envie de se reposer. C'est écrit dans la Bible, là, j'extrapole pas. Il y a des moments, il en a marre aussi. Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Mais il est en train de dire, regardez cette foule, à cause du besoin, je prends sur moi dans mon caractère. Je prends sur moi dans ce qui peut-être même... Et là, c'est trop. Non, il fait parce qu'il a à cœur le salut des âmes et de la multitude qui l'entoure, du peuple de Dieu et des gens extérieurs qui seront touchés par la suite. Et il se donne, il est en train de dire à ses disciples, apprenez à voir comme je vois. Parce que c'est ma vision qui m'a mis en action. C'est parce qu'il a vu, pas juste regardé, il a vu, il a considéré. La Bible dira que les serviteurs de Dieu, qui est aveugle si ce n'est le serviteur de Dieu, dira Esaïe. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Dieu veut nous apprendre à voir et à considérer. Une fois que tu as le caractère, comme il est dit dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une fois que tu as ça, là, ces sentiments, tu commences à avoir la même vision que lui, chercher à enrichir d'autres parce que tu les as vus dépouillés. Tu commences à avoir la même vision que lui de dire « je me donnerai pour eux ». Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner, son caractère, mais aussi sa vision, c'est-à-dire sa considération des choses. Bâtissez-vous une vision. Demandez au Seigneur, donne-moi des yeux pour voir. Faites la prière de Paul dans Éphésiens. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation qui me fasse véritablement te connaître. Fais-moi voir ta gloire. Ma gloire, c'est mon peuple. Gloire d'Israël, ton peuple. Ma gloire, c'est mon peuple. Ah bon, mais c'est qui? Un peuple au courraient. C'est ça ta gloire? C'est le projet, ouais. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire alors? On va continuer dans les autres versets. Vas-y, Paul. Merci. Parfait. Dans Hébreux, il est question de Jésus quand il entre dans le monde. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Je rectifie. Oui, je me rappelais, je ne t'ai pas envoyé Jean 4. Donc c'est moi le fautif. C'est... Merci Paul. Dans ce passage, le Seigneur nous montre, l'apôtre qui a écrit ça, certains pensent que c'est Paul, d'autres une autre personne, qu'importe, ce qui compte c'est ce qui est écrit, pas qui l'a écrit. Il dit quand Christ est rentré dans le monde, il est rentré sur son intention à lui aussi. Pas que juste le Père a envoyé le Fils, bien que ce soit le cas. C'est dit que Jésus-Christ est dans les cieux. Il y a la loi de Moïse qui a été établie. Il y a les sacrifices qui sont prévus. Normalement, c'est ce que Dieu a donné, rien de plus. Mais il va considérer le regard du Père. Il va considérer le regard de Dieu qui, malgré les sacrifices et les offrandes, est toujours soucieux pour l'humanité parce que ça ne suffit pas pour combler la distance qu'il y a entre eux et lui. Parce que c'est justement, ça couvre et ça maquille les péchés, mais ça ne transforme pas les cœurs et les identités. Et il dit, c'est pas suffisant là. Ça les pardonne d'année en année, c'est pour ça qu'il y a Yom Kippour encore aujourd'hui, le jour du grand pardon. Mais ça ne suffit pas pour les transformer, leur donner une autre nature, transformer leur caractère. Et il dit, tiens, c'est marrant, le Père, il regarde beaucoup vers la terre en ce moment. Et de lui-même, il va aller chercher dans le rouleau du livre. Il va aller chercher dans la Bible de lui-même. Il n'y a pas l'ange Gabriel qui est venu l'enseigner. Il n'y a pas pasteur ou archibishop un tel qui est venu l'enseigner. Il n'y a pas big prophète qui lui a fait une révélation. Il y a lui face à un rouleau. Pour ceux qui n'aiment pas lire, faites un effort. Lisez courtement, lisez un paragraphe, même si un chapitre c'est trop long, parce que bon, un chapitre par jour, le jour où tu es au psaume 119, ça fait un peu plus mal. Même un paragraphe de la Bible, dites-moi pas que vous ne pouvez pas. Mangez ce rouleau. Commencez à lire. Quand il a mangé ce rouleau, quand il allait voir, il a dit, attends, mais je crois que ça parle de moi là-dedans. Il est allé voir Dieu, il a dit, j'ai une question. Il n'a pas juste attendu que le Père le réclame. Ça, c'est les anges de l'Apocalypse qui attendent qu'on dise « viens pour venir ». Nous, on n'est pas des anges, on est des fils de Dieu, c'est pas pareil. Les fils, ils viennent d'eux-mêmes. Il est écrit ça à mon sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit que tu veux me faire un corps, c'est bon, je suis prêt, envoie-moi. C'est comme ça que le Christ, celui qui est oint, est entré dans le monde. Une conscience d'un monde qui se perd, une conscience de l'intérêt de son Père et une volonté de répondre à ces deux questions. Bâtissez-vous une vision, parce que la vision nous donne la force pour aller vers le sacrifice. Faute de vision, le peuple vit dans le désordre. D'autres versets diront, faute de vision, le peuple périt. Je peux vous poser une question, je ne vous demande pas de réponse, c'est une question rhétorique. Vous n'avez pas l'impression des fois de vivre dans un certain désordre spirituel, de courir de programme en programme, de révélation, de prophétie, de quelqu'un a vu un éléphant, l'autre a vu une fontaine, on ne sait pas trop quoi en faire. Vous n'avez pas l'impression de courir d'une pensée à l'autre. Sache une chose, quand tu es dans le désordre, tu es à un pas de la mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, il bâtit une œuvre. Toutes ces choses-là que tu reçois, elles doivent servir à bâtir. Tu sais comment tu peux trier une vraie prophétie, un vrai verset, une vraie pensée ou tout ce que tu veux? Est-ce que ça me bâtit? Et plus que de me bâtir moi, est-ce que ça bâtit l'œuvre de Dieu globale? Si ce n'est pas le cas, de côté. Et même si la parole serait vraie, je te garantis que la parole t'honorera. Je dirais, pourquoi il m'a mis de côté? Parce qu'il pensait que je n'édifiais pas. Ah ben, je vais revenir sous une autre forme. Parce qu'il a compris mon cœur. La vision nous amène à comprendre où Dieu veut nous amener. Parce que Dieu veut nous amener là où Dieu veut aller. Nous sommes les porteurs de Dieu. Vous êtes encore avec moi ce matin? Merci pour votre attention. Nous sommes les porteurs de Dieu. Fut un temps dans l'Ancien Testament où la gloire de Dieu était portée sur des êtres vivants. Les chars d'Ézéchiel, vous connaissez. Ou ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage. Vous avez vu, je vous cite plein de versets, je fais exprès, je vous perds dans la Bible pour avoir envie de la lire. C'est vrai. Il faut avoir envie de lire ce livre. Moi, je détestais lire avant. C'était horrible pour moi. Mais j'ai découvert que ce livre, ce n'était pas que des mots, c'était une réalité, une dimension dans laquelle je pouvais rentrer. C'est plus que les songes, c'est plus que les visions, et je vous garantis que j'en ai eu. C'est plus qu'il y a de là-dedans. J'embrasserai jamais un songe, même si je pouvais. J'embrasserai ce livre toutes les années que je pourrais le faire. Il y a une porte là-dedans. Et la vision, quand on rentre là-dedans, on se dit, c'est là où Dieu veut aller. Dieu était porté par des êtres vivants avant. Maintenant, Dieu est porté par nous. Il est dit qu'à la fin des temps, Dieu viendra pour être contemplé dans les anges. Non, pour être contemplé dans ses bien-aimés. Qui sont les bien-aimés? À quel ange Dieu a-t-il dit, tu es mon fils? C'est Hébreux chapitre 1. C'est nous, c'est de nous qui sommes issus de Christ dont il est question. Dieu veut paraître en nous, Dieu veut être porté par nous. Le trône de Dieu, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, c'est ça la louange. Hein. Mais nous sommes aussi le trône de Dieu. Nous sommes aussi ensemble le trône de Dieu. On doit porter Dieu vers où il veut aller. Mais comment l'amener si on ne sait pas? Comme si là tout de suite je prends Pierre en voiture et il ne me dit pas où il veut aller. La dernière fois, je suis parti avec Jean-Marie pour visiter des sites historiques. Il m'a dit, vaut mieux que ce soit moi parce que c'est plein de petites rues. Bon, il n'y a peut-être pas que ça, mais bon, bref. Et il m'a dit, vaut mieux que je conduise. Mais imaginons si ça aurait été moi qui aurais conduit. Je n'aurais pas pu partir, l'esprit va me conduire. Ouais, j'aurais fini je ne sais pas où. On serait allé à Besançon ensemble. C'était à Luxeuil, c'est ça? Lure. des noms étranges que vous seuls connaissez. Et vous vous rendez pas compte, quand on est immigré en cette région, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, vous avez une très belle région, sincèrement. Je mets un peu d'humour pour vous détendre. Mais ce que je veux dire par là, si Jean-Marie, j'aurais conduit, il m'aurait dit, bah là, Fabien, il faut que tu tournes à gauche. Là, faut que tu... Parce qu'il connaît le chemin. Et c'est là où lui veut m'amener. J'ai beau avoir la voiture, c'est lui qui veut m'amener. Et il s'avère que c'était moi qui lui avais demandé, est-ce que tu peux me montrer ces lieux dont tu m'as parlé ? C'est pareil avec Dieu. Seigneur, est-ce que tu peux me montrer ces lieux ? Vous savez ce que fait Dieu ? Pas de souci. Par contre, bah, je n'ai pas de voiture. Donc Dieu, il monte côté passager. Voilà. Il dit, je suis Dieu quand même, je n'ai pas de con. Hey, oh, laisse-moi là. Et Dieu, il dit maintenant, tourne à gauche, tourne à droite. D'où ces versets d'Ésaïe, lorsqu'il faudra choisir, tu entendras une voix qui te dira. On doit amener Dieu là où il veut nous amener. Donc on doit avoir la vision de où il veut nous amener. C'est tout simple, c'est mathématique. Amen. Le troisième point que je veux vous partager, donc premier point, bâtissez-vous une stature, un caractère. Deuxièmement, bâtissez-vous une vision. Et on pourrait le résumer, en anglais, je ne vais pas le faire parce que je ne suis vraiment pas parlé. Mais il y a les 5 W, oui, je t'ai vu venir, je te connais. Elle est moqueuse des fois. Qui, quand, où, quoi, tout ça, vous connaissez. La stature, c'est qui ? Voilà, qui suis-je ? Qui est-ce que je veux être ? Tu peux être quelqu'un de meilleur que ce que tu as été jusqu'à présent, c'est à toi de le décider. Moi, par exemple, j'ai pris du poids, mais j'étais quelqu'un de très léger avant. Pas que physiquement. Merci pour ceux qui ont apprécié la subtilité de la blague, c'est-à-dire 2% de la salle. Mais moi, pour moi, j'étais quelqu'un, je me définissais comme ça avant d'être chrétien, j'étais quelqu'un de très volatile. Je ne pense pas méchant tel qu'on l'entend, je n'aurais pas cassé la figure à quelqu'un dans la rue, au contraire, je défendais les gens qu'on maltraitait, à ma mesure. Hein. Je n'étais pas non plus Chuck Norris. Voilà. Par contre, j'étais quelque chose de léger, tu m'y aurais trouvé. J'étais le mec de l'arrêt de bus, ou voilà, j'aimais être léger. Alors autant te dire qu'être un gars qui étudie la Bible et qui parle là comme un rabbin, j'aurais dit, bah vraiment, ça c'est une perte de temps. Mais un jour, j'ai décidé d'être quelqu'un d'autre. J'ai dit, non, là, tu veux manger le chemin de la vie, marcher sur le chemin de la vie ? J'ai développé un autre qui. Je ne suis plus le Fabien qui était hier. Et vous verrez, après-demain, je ne serai plus le Fabien d'aujourd'hui. Je dois atteindre un autre Fabien. Je dois devenir une autre personne, je dois aller plus loin. Le Jésus qui est dans les cieux, ce n'est plus le même Jésus qui était sur la terre physiquement. Pour preuve, quand Jean il le voit dans sa gloire, il ne le reconnaît pas. Il a muté. C'est la même base, mais amené plus loin. Et ça, c'est la vision qui nous transforme. On devient ce qu'on regarde. On devient ce qu'on contemple. Comme en voiture, on va vers où on regarde. Moi, je regarde une autre version de moi-même, plus semblable à Christ qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous devez faire la même chose. La stature, c'est qui ? La vision, c'est où et quoi ? Où et quoi ? Dans ces questions des 5 W. La troisième, bâtissez-vous une mission, ça serait quand et comment ? Parce que c'est pareil. Qu'est-ce que j'entends par mission ? La mission, c'est les différentes étapes qui te permettent d'atteindre ta vision. Ok ? Israël sort d'Égypte et doit aller en Canaan. Ok ? Israël sort d'Égypte, jusque-là c'était des esclaves. Ils découvrent une nouvelle vision d'eux-mêmes, une nouvelle stature. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Ah bon ? Ah bon ? C'est vrai. C'est toujours actuel, ça, c'était les grands-pères qui parlaient de ça. Nous, on est esclaves. Non. Vous êtes esclaves pour plein d'autres raisons. Mais là, je vais vous sortir. Une fois qu'ils sortent, il leur donne une vision. La vision, c'est Canaan, comme je l'ai dit à Abraham. Ah bon, d'accord, on y va. Mais maintenant, la mission, c'est les 42 étapes qui marquent de la sortie d'Égypte à l'entrée en Canaan. Les 42 étapes. On ne parle pas juste de... Ils ont fait un détour au camping pour manger une frite. 42 étapes, avec des marches, des arrêts, on démonte un camp. Comme il y a 42 étapes entre Abraham et l'avenue du Messie, c'est pour ça qu'on a la généalogie dans Matthieu, on montre qu'il y a des étapes qui doivent être marquées, qui doivent être atteintes pour amener d'un point A à un point Z. On est d'accord, l'alphabet, ce n'est pas que A et Z. Je ne parle pas grec, mais ce n'est pas que alpha et oméga. Il y a toute une panoplie de lettres au milieu. Ces lettres, c'est vous, ces lettres, c'est nous. Et on doit marcher dans toutes ces étapes. Et ça s'appelle des missions. Les stations missionnaires, si on pourrait dire. Et ça, vous devez les définir. Et j'aimerais vous lire un passage dans Galates chapitre 4 et verset 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Et d'autres versions diront, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Amen. Là, nous, on dit, bah, c'est bon, il a envoyé Jésus. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il explique par quel processus il a amené Jésus. Il y avait un temps qui était marqué, mais il fallait un contexte aussi. L'Ecclésiaste dira que ça ne dépend pas de celui qui court, celui qui veut, de la force, de ceci, de cela. Tout dépend du temps et des circonstances. Ce que l'Ecclésiaste va nous apprendre. Il y a une sagesse dans ce que Dieu fait qu'on doit comprendre. Et cette sagesse, elle nous parle du temps et du contexte. Il y avait un temps pour la venue de Jésus, il ne pouvait pas venir avant, et il devait le savoir. Et il fallait aussi qu'il y ait un contexte, il fallait qu'il naisse d'une femme née sous la loi. Il ne pouvait pas naître d'une femme originaire du Cap-Vert comme ma mère. Il ne pouvait pas naître de quelqu'un qui venait de Vaux-en-Velin. Il fallait qu'il naisse de quelqu'un, d'une femme, qui était née sous la loi et qui grandisse dans un contexte. Dans tout ce que Dieu veut faire de vous, dans l'identité que Dieu veut révéler de toi, de moi, individuellement et de nous tous. Maintenant, je dis ce grand nous collectif. Je commence à m'intégrer là, attention. Je vais squatter. Ce grand nous, il y a un temps, il y a des circonstances. On doit les découvrir ensemble. Pour ce nous, mais pour ce tu dois les découvrir tout seul. Il t'appartient de les découvrir. Et Dieu va te les révéler. Ce n'est pas la chasse au trésor où il n'y a pas de trésor à la fin. C'est que dans cette recherche, tu vas comprendre la sagesse de Dieu. Les épîtres de Paul diront que les autorités spirituelles, là, tous les démons qui font peur à tous les chrétiens quand ils vont se baigner dans un lac, c'est dit que ces autorités, même dans le ciel, alors imagine si on a peur ce qui est dans les eaux, prends surtout pas l'avion, hein, parce qu'il y a vraiment, vraiment plein de démons dans le ciel aussi. Okay, c'est dit que tous ces démons, même ceux qui sont sur l'espace, dans l'espace, Dieu va leur faire découvrir sa sagesse infiniment variée au travers de l'Église. Et c'est dit que les anges eux-mêmes, les anges qui sont là, eux, c'est ceux qui sont restés purs avec Dieu, ils désirent découvrir ça aussi dans l'Église. Ils désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Ils désirent. On a accès à une richesse qui est plus grande que tout ce que l'univers physique, métaphysique, tout ce que tu veux, peut contenir. C'est au milieu de nous. C'est pour ça que c'est un scandale pour le diable. Il se dit, mais c'est une blague. Nous, on est là depuis des milliers d'années, on fait 10 fois la taille de l'univers. Tu donnes ça à eux. Oui, fruit de son amour et de sa bonté, comme elle a dit tout à l'heure. Amen. Ça valait le coup. Là, il fallait applaudir normalement, comme ça a été initié. Alléluia. On applaudit. Pourquoi on applaudit? Je vous le dis juste que je ne suis pas un acteur de cinéma, mais parce que la parole de Dieu, elle est belle. Au bout d'un moment, il faut lui exprimer quelque chose. Je dirais amen, merci, gloire à Jésus. Amen. Avec modération, bien sûr. Commencez pas à casser les chaises comme des rockstars. Hein. Donc, parce que vous allez avoir des problèmes avec certaines personnes. Dans Luc chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Parce qu'à chaque fois, là, je vous parlais de Jésus, mais au début, je vous ai parlé de Jean-Baptiste aussi. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétraque de la Galilée, son frère Philippe le tétraque de Liturée et du territoire de Trachonite, Lysanias tétraque de l'Abilène, c'est pas évident, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain et prêcha le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Il y a tout dans ce verset, tout ce que je viens de vous dire. Il y a un contexte, il y a un temps, il y a une vision qu'il a vue dans le rouleau du livre, il y a une mission qui s'est donnée. Il y a tout. Votre histoire est écrite dans la Bible. Jean-Baptiste, il n'a pas lu son histoire dans les évangiles n'étaient pas écrits. Il l'a lu dans Ésaïe. Il y a ton histoire dans les livres de la Bible, il y a mon histoire et il y a notre histoire commune. Véridique, et là, ce n'est pas une belle phrase. La première fois que tu te rends compte de ça, ça fait limite peur. On en parlait encore hier. Moi, j'étais tout jeune la première fois. J'ai dit, mais Seigneur, c'est moi qui... Parce que c'est possible aussi avec des choses que j'ai consommées dans le passé. Mais est-ce que c'est moi là qui dégénère ou tu parles de moi là? Je suis dans la Bible. Non, mais aussi, c'est bizarre. Au début, des fois, ça m'est arrivé de fermer ce livre, dire, c'est de la magie noire. Ah, ça fait, quand tu es jeune converti, que Dieu commence à te parler même dans des visions, il y a des gens qui courent après les visions, il y en a certaines, on se garderait de les avoir. Hein. Ça te défie, puis une fois que tu as vu, tu as vu. Il faut vivre avec après et marcher là-dedans. Mais maintenant, positivement parlant, dans ce livre, il y a l'histoire de chacun d'entre nous. Dieu, il compose, il prend un bout de ce verset, un autre bout de l'autre, et il crée ton histoire, il te parle de ton histoire, de ton passé, mais à la limite de ton passé. Les amis, je vais être sincère, je suis désolé, vous savez, quand je me suis mis, je me contris devant vous. Il y a plus que juste de guérir de son passé. S'il te plaît, donne-moi une parole pour mon passé. Je comprends, mais je vais te dire un truc, il y a beaucoup plus que Dieu qui va pointer du doigt que tu as eu des problèmes avec ton père. Mais prophétie niveau 0,5, c'est tellement évident que tout le monde a eu des soucis avec son père. Tu vois. C'est, personne n'a un père parfait parce que personne n'a des enfants parfaits. Donc comme ça, moi, on est d'accord. Mais la parole de Dieu, elle peut te parler de ton avenir. Tu guériras de ton passé en rentrant dans ton avenir. Que Dieu te dise, je suis au courant que tu as vécu des souffrances, tu vas dire, ah merci, ça me fait du bien, mais ça ne me les guérit pas. Mais si Dieu te conduit dans un chemin de guérison, dans un chemin de vie, dans un chemin d'avenir, où là on te disait que tu étais un moins que rien, tu te retrouves à faire l'œuvre du Dieu unique, tu diras, hey, je suis guéri de ce qu'on m'a dit d'avant. Moi, des fois, ça m'arrive, il y a des gens qui viennent me voir, tu sais, quand tu étais petit, tu as souffert, demande à Lydie, je ne comprends pas. Je vais dire, mais moi, ça va. Ouais, tu sais, quand tu as perdu ton papa, et tu penses que j'en suis encore là? Je vais au cimetière et je pleure. Mais tu crois que j'en suis encore là? Tu m'as regardé? Un homme qui lit la Bible? Mais moi, je marche avec le Père tous les jours. Tous les jours. Tu me feras douter de ce que tu veux. Tu peux me parler de ce que tu veux sur ma tête. Tu ne me feras pas douter que je suis fils de Dieu. Ramène-moi tous les archibishops ou les faux prophètes d'aujourd'hui. Je m'assois, je mange un kebab devant eux. Je suis au courant du fils de qui est mon Père. Tu vois? Et c'est pareil pour vous tous. Il y a des choses, quand tu es rentré dans l'avenir avec Dieu, tu as des doutes sur des domaines, pas sur d'autres. Je doute des fois de ma capacité à faire l'œuvre, je ne doute pas de mon identité. Et bientôt, je grandirai. Même la capacité, j'en douterai moins parce que j'aurai vu. Avancez vers l'avenir. Avancez vers votre identité à venir. C'est comme ça que vous guérirez de votre passé. Rentrez pas dans ce piège. Nous, on l'a fait des années, je pense à nous, parce que je pense à mon frère et à d'autres amis avec qui on était... la bande de la caverne d'Adoulam, comme on disait. Et on se fortifie, on se dit, il faut qu'on règle tout notre passé pour rentrer dans l'avenir. Ce n'était pas vrai. Avancez, avancez et avancez. Amen. Dans Luc, je suis désolé, j'ai fait une grosse digression. On voit que le prophète Jean-Baptiste, il a vécu ce processus. Il s'est intégré dans un contexte. Il a su cadrer son message, son identité, sa mission selon le contexte. Et vous aussi, moi aussi, on doit chercher ça. C'est quoi le contexte de mon appel? Et c'est comme ça que même dans l'Église, vous éviterez certains problèmes de « alors ça, c'est ma zone de confort, pas la tienne ». Non, vous allez vite apprendre c'est quoi la zone de chacun en Dieu. Et certains, vous verrez que votre zone, elle commence derrière ce portail. Pas à l'intérieur, parce que Dieu vous appelle à aller toucher les gens dehors. Il y aura de la place pour tout le monde. Mais lorsqu'on n'a pas de vision, lorsqu'on n'a pas de stature, pas de courage non plus, parce que c'est plus facile d'essayer tout le monde de s'intégrer dans les services de l'Église plutôt qu'aller gagner le monde. Il y a une certaine facilité là-dedans. Quand on n'a pas tout ça, on s'entremêle les uns les autres et on se bouffe les uns les autres. Quand on est conscient que hey, l'œuvre de mon Père, elle se porte vers le dehors, on est tous rattachés au-dedans et on tire les cordages vers dehors. Et l'Église, elle grandit. John Wesley disait, le monde est ma paroisse. Ah là là, il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Hein si, ce n'est plus du tout. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous lire un dernier passage et terminer sur ça avant de prier. Est-ce que je suis bon au niveau du temps? Amen. Ça, c'est Paul. Hein. Quand Paul et Barnabas travaillent ensemble. Voilà. Et je vais laisser la place de Paul quand même, c'est bien, non? Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Merci. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc il est question de Jésus-Christ, pierre vivante au singulier, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Point virgule, la ponctuation biblique, bien que ce soit issu de la traduction. Vous voyez, je fais attention. Magnifique, la ponctuation, il n'y a pas un seul trait de lettre, pas un seul point, tout ça. Là où nous, des fois, on met des points, Dieu met des virgules ou des points virgules, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. On dit, ah, gloire à Jésus, c'est Jésus, il est le tout. Approchez-vous de lui, allez choisir des hommes, il est précieux, point virgule. Maintenant, on ne parle plus de lui, on va parler de nous. Et vous, hein, mais ce n'est pas les mêmes versions que tu as, non? Parce que moi, c'est en Louis II. Bon, en Louis II, il dit devant Dieu, point virgule. Et vous-même, virgule, comme des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Point. J'aime ce passage parce qu'au début, il parle de Jésus qui est une pierre vivante. La pierre vivante, ok ? Mais maintenant, il parle de nous qui sommes aussi devenus des pierres vivantes. Et qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on est devenu des pierres vivantes ? On doit s'édifier nous-mêmes et s'édifier entre nous. Se rassembler et édifier quoi ? Un bâtiment pour être bien ? Non, pour offrir des sacrifices qui plaisent à Dieu. C'est ça la consécration. Dans le temple de Jérusalem, il est dit qu'on ne devait pas entendre le bruit de fer dans le temple. C'est-à-dire que les pierres ne devaient pas être taillées dans le temple. Elles devaient être taillées à l'extérieur pour être ramenées ensuite et être édifiées. Il ne fallait pas qu'il y ait des bruits de construction dans le temple de Jérusalem. C'est la même chose que je suis en train de vous dire ce matin. Il faut que vous trouviez à vous édifier aussi personnellement, particulièrement durant cet été, pour pouvoir arriver béton littéralement et pouvoir s'édifier ensemble. Quand on est ensemble, ce n'est plus une histoire de toi ou de moi, c'est maintenant on doit parler de ce grand nous qui nous dépasse. Et c'est ce qui manque des fois à l'église. Les gens ne sont tellement pas développés personnellement que tu passes des cultes à leur parler d'eux, tu dois prophétiser à chacun individuellement. Mais non, et quand tu parles au corps, tu prophétises au corps. Sinon, invite-moi à boire un café. Non, mais tu vois, l'église n'est pas toute disposée que pour toi ou que pour moi. L'église, c'est ce grand nous. Et une fois que les pierres, elles sont bâties individuellement, elles viennent en force s'unir autour de celui qui est la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Et là, le corps de Christ est véritablement bâti. La fin, le verset 6, « Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion. » Tout à l'heure, on a lu Sion, qui ne sera pas délaissé, qui ne sera pas abandonné, qui trouvera un époux. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Point virgule. « Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Ou « Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas confus. » On doit s'appuyer sur Jésus en étant taillé par lui, en lui et pour lui. L'autel, et Jean-Marie, tu sais plus que moi vu que tu es un vrai théologien, l'autel dans l'Ancien Testament, il ne devait pas être fait de pierres taillées par les hommes, c'était des pierres naturelles qui devaient être imbriquées les unes dans les autres. Donc ce n'est pas par les mains des hommes que tu dois être façonné. C'est par le rapport à Dieu. Et ensuite, les hommes, les serviteurs de Dieu, Éphésiens 4, ils viennent, ils te positionnent correctement et ils t'aident à t'imbriquer dans le corps pour que tu trouves sens à ta nature en appréciant la nature de l'autre. L'évangile, il n'est pas égocentrique, il est communautaire. Alléluia. La personne qui a écrit ce passage, c'est l'apôtre Pierre, celui à qui Jésus lui a dit « Toi, tu n'es plus Simon, tu es Pierre ». Il est en train de dire « C'est plus qu'une histoire de mon identité à moi, c'est notre identité à tous ». Dans son histoire personnelle de tuer Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, il a découvert qu'on était tous des pierres appelées à devenir des pierres. De son histoire personnelle, de sa révélation personnelle, il y a un enseignement pour nous tous. De ton histoire personnelle, de ton enseignement et de ta révélation personnelle, il peut en sortir un enseignement pour nous tous. C'est ton devoir, pas le mien. Non, mon devoir, c'est de prêcher l'évangile, d'aider des gens, des fois, à se former. Mais mon devoir, c'est pas de vivre ta vie. Et ton devoir, c'est pas de vivre la mienne. Alléluia. Si tu remplis pas ta part, sache de toute façon qu'un autre prendra ta place, parce que c'est biblique et Dieu a un plan à accomplir, mais ça sera toi le seul déçu de l'histoire. Par contre, si tu te mets en marche avec toutes tes carences et toutes tes faiblesses et toutes tes peurs, même les anges les plus puissants chanteront tes hommages. Parce qu'ils diront, quelqu'un de ce niveau-là, dans cette blessure-là, ose marcher vers ce Dieu que nous, on essaye de regarder découvert comme ça. Et mais qui est cette personne ? Et ils viendront t'aider. Et là, tu verras c'est quoi, au-delà des « j'ai fait un rêve » ou « j'ai vu un chihuahua voilà. », tu verras c'est quoi être accompagné par les cieux. Tu verras c'est quoi quand Dieu vient te soutenir dans tous les détails de ta vie. Mais pourquoi il est là-dedans dans tout ? Parce que les anges, ils se battent pour venir à ton aide. Est-ce qu'ils doivent, ils sont appelés à venir en aide à ceux qui doivent hériter du salut, à ceux qui sont en marche sur le chemin du salut. Il y a tellement peu de personnes qui le font, mais eux, ils sont comme nous, ils ont envie de bosser, hein. Il n'y a pas de chômage au paradis, donc ils sont tous là. Et qu'est-ce qu'on peut aider ? Lui, là, il s'est mis en marche. Alléluia ! Quand les anges y montaient au paradis, que Satan lui-même y montait, Dieu, il parlait de Job. Parce qu'il était droit et il marchait selon les commandements de Dieu. Si on fait cela, si je fais cela, si tu fais cela, Dieu parlera de nous au ciel. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Ça peut devenir ta chanson. Pour de vrai ? Pour de vrai ? Et là, il n'y aura plus de questions. Oui, mais l'autre, il a un démon. Non, les démons, ils seront quittés aussi. Parce qu'ils sauront que tu es quelqu'un de façonné en Dieu et qui marche pour Dieu. Pas juste, ah ouais, je connais ton pasteur. Hein? Je connais ton ancien. Ok, je connais leur chaîne internet. Mais toi, t'es qui? C'est horrible, ça. Moi, j'ai déjà vu des scènes comme ça chez arriver à certaines personnes. Ben après, c'est toi qui derrière dois venir réparer la casse. C'est pas toujours très beau. Mais quand quelqu'un est connu de Dieu, même quand tu es inconnu des hommes, même si ici si personne ne te reconnaîtrait, même si les pasteurs qui restent des humains, ils ne te voient pas, mais c'est pas important. Si tu es là réellement pour Dieu, mais t'inquiète pas, Dieu, il te voit. Les anges, ils te voient, les êtres spirituels, ils savent. Et bénis Dieu même d'être caché. C'est une bonne chose que d'être caché. Là, nous, on est là devant vous, moi, ça fait 17 ans que je prêche. Il y en a, ils me disent, il y a 6 mois, on ne savait pas qui t'étais, je sais bien, mais ça ne m'apporte pas que tu saches qui je suis. Je travaillais à ce qu'un autre monde sache qui je suis. Et ils le savent. Alléluia. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Laissons-nous édifier. Amen. Bâtissez-vous une stature, bâtissez-vous une vision, bâtissez-vous une mission. Les amis, vous avez 2, 3 mois devant vous. Faites-le. Alléluia. On va se lever. Terminer par la prière, si vous le voulez bien et si vous le pouvez. Prenez le message, réécoutez-le. Je pense qu'il est assez dense pour être étudié. Père éternel, merci pour ta grâce, pour ton peuple, son attention, sa volonté de bien faire. Maintenant, Seigneur, c'est l'âge où tu responsabilises les enfants. Tu veux les appeler par leur prénom, marcher avec toi, découvrir le Père. Marcher avec toi, découvrir le roi, découvrir le Seigneur, découvrir leur héritage et leur nature. Seigneur, nous les appelons à paraître. Maintenant, Seigneur, dans ta présence, et qu'ils soient vus dans ta lumière, marchant dans ta lumière, grandissant dans ta lumière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, vraiment manifeste ta puissance dans cette assemblée, cette puissance qui, plus que de nous faire tomber à terre, nous relève devant toi. Donne-leur, Seigneur, de découvrir qui ils sont en toi et qui tu es en eux. Merci parce que tu t'es choisi un temps comme celui-ci, une génération comme la nôtre, pour marquer une fin soudaine qui va s'abattre sur le monde. Nous voulons être prêts pour cela. Je te demande que durant cet été, cette église en particulier, parce que c'est ici que tu nous as envoyés, je te prie pour cette église, Seigneur. Moi, je ne te prie pas pour toute la terre. Je te prie pour celles et ceux que tu mets devant nous. Et je te demande de les bénir, de les préparer, de les façonner, qu'ils rentrent dans cet engagement avec toi. Seigneur, qu'ils suivent, et j'ose le dire, notre exemple. On n'a pas attendu des pasteurs avant même d'être ordonné ou quoi. On t'a cherché, toi. Et tu as été un père pour nous. Tu as été une famille pour nous. Tu as été un tout pour nous. Tu as été un instructeur pour nous, un correcteur pour nous. Et tu es toujours ce Seigneur pour nous. Et je te demande que ce soit leur partage d'ici même, chacun individuellement et à tout le corps de cette assemblée. Conduis-les dans une maturité. Tu m'as dit de leur dire, bâtissez-vous un caractère, bâtissez-vous une stature. Qu'ils soient prêts pour ce que tu vas déverser. Que ce ne soit pas à leur honte qu'ils aient appelé le réveil. Que ce ne soit pas à leur honte qu'ils aient appelé ta venue. Mais qu'au contraire, ça soit pour que tu sois admiré en eux. Tu les attends sur ce chemin, qu'ils soient assurés, conduits. Déploie tes anges, Père Saint, pour les accompagner, pour les encourager. Persécute-les pour le bien. Amène-les plus loin. Va chercher ce qui doit être changé dans nos caractères. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où nous utilisons notre connaissance, les, entre parenthèses, pseudo-dons qu'on a reçus pour dominer sur d'autres. Change-nous, transforme-nous. Que le plus grand devienne le serviteur de tous. Que le plus fort accepte l'injustice jusqu'à ce que le méchant devienne juste. Seigneur, redresse ton peuple. Plus d'humilité en Dieu. Les amis, plus d'humilité en Dieu, plus de consécration pour lui. Merci Seigneur, parce qu'il y a une voie de guérison, mais il y a aussi une voie d'édification, où nos blessures ne sont pas juste refermées pour être oubliées, nos blessures deviennent notre gloire. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a des blessures qu'on a vécues, les amis, elles doivent servir de gloire une fois que Dieu est passé dedans. Paul dira, je porte sur mon corps les stigmates du Christ. Seigneur, conduis ton peuple à comprendre qu'il y a plus et que pour ça, ils doivent devenir plus. Et que tu les attends là-dedans, qu'ils seront aidés là-dedans. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Ils nous ont reçus comme tes envoyés. Nous les bénissons comme ton peuple. Maintenant, la suite est à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis.